pour investir, la boîte à outils.
Allez, la boîte à outils, 11h31 sur BFM Business. C'est Jérôme Viala qui est avec nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue, fondateur associé de Patrimovi. On va parler des ETF. On va parler un petit peu des performances à venir des ETF. Quel est le message que vous avez envie de nous faire passer aujourd'hui?
Ouais, alors il y a un constat, on va dire, en trois parties. Ouais. Première partie, c'est le fait que la majorité des Français sont investis dans le marché américain. Moi, j'expliquerai après comment. Deuxième partie, c'est le fait que les marchés américains coûtent très cher.
Ouais.
Et du coup, troisième partie, quelles sont un peu les alternatives?
Ouais.
Donc la première partie, c'est donc là aujourd'hui, un tiers des Français sont intéressés à la bourse.
Et on a vu une étude de BlackRock, on en a parlé hier, qui disait qu'il y avait une nouvelle vague d'investisseurs en France sur les ETF qui arrivait. Donc voilà, plus que dans les autres pays européens pour le coup.
Ouais, exactement. Là aujourd'hui, on est aux alentours de 2,5 millions de Français qui ont investi dans les ETF.
Ouais.
Donc ETF, pour un petit rappel, c'est un panier d'actions qui va nous permettre d'investir dans un secteur,
ouais,
une zone géographique. Le sujet, c'est que la majorité des Français sont investis dans soit le S&P 500,
ouais,
donc les 500 plus grosses sociétés américaines,
ouais,
ou le MSCI World, donc les 2000 plus grosses sociétés mondiales. Mais 70% du MSCI World, c'est le marché américain.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Le sujet aujourd'hui, donc du coup là, c'est le point 2, c'est le fait que aujourd'hui, les marchés américains coûtent très cher.
Ouais.
Il y a un ratio qui nous permet de le voir, c'est le price to earning.
Ouais.
Price to earning, c'est la valorisation d'une société divisé par les bénéfices.
Ouais.
Le problème, c'est que d'une année sur l'autre, le bénéfice ça peut varier.
Et
donc ça peut rendre ça très volatile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le Cap-Shiller ratio,
qui
permet d'avoir la valorisation du coup sur la moyenne des bénéfices sur 10 ans. Et si on regarde entre 1881 et aujourd'hui, donc depuis 150 ans.
Ah oui, vous avez pris très très large pour le coup. Ouais.
La moyenne de ce Cap-Shiller est aux alentours de x17.
Ouais.
Et en fait, il a atteint x40 deux fois en 150 ans. La première fois, c'était avant la crise de bulle Internet, donc dans les années 1999.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et la deuxième fois, c'était il y a quelques mois.
D'accord.
Donc, maintenant qu'on s'est dit ça, en fait, quelles sont les alternatives?
Alors voilà, oui, c'est ça, oui.
En fait, le problème, c'est donc, ce qu'on entend énormément d'ailleurs sur LinkedIn ces derniers temps, c'est que 90% des fonds perdent de l'argent face aux indices de référence. Donc ça, depuis 20 ans, ça, c'est l'étude de Spiva. Cependant, en fait, ça, c'est vrai. C'est si on regarde, du coup, des sociétés de gestion de portefeuille de façon un peu aléatoire.
Ouais, ouais.
Et en réalité, il y a eu une étude qui est sortie en 2021, donc assez récente, qui a pris la donnée de 3000 fonds aux États-Unis.
Ouais.
Donc, dans les années entre 1983 et 2020 environ. Et on s'est rendu compte si on regarde les 5 plus grandes convictions de ces fonds-là, ces fonds d'investissement surperforment les marchés de 2,5% à 4,8% par an. Donc, ce qui est énorme. Donc, ça, c'est une étude qui a été beaucoup relayée par des investisseurs.
Énorme.
Notamment Xavier Delmas. Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais.
Et donc, du coup, maintenant qu'on s'est dit ça, comment ça se fait alors que l'étude Spiva nous dit que 90% des fonds perdent face aux indices? En réalité, il y a différentes raisons. De un, il peut y avoir des fonds un peu déguisés qui vont essayer de copier un ETF.
Oui.
Du coup, à ce moment-là, on paye des frais pour rien. Donc
on paye des frais pour rien, voilà, c'est ça. Oui,
Et en fait, la plus grosse raison, c'est le fait que la majorité de ces fonds détiennent beaucoup trop de titres. Il y a 50 ans, c'était en moyenne une soixantaine. Aujourd'hui, c'est 165, c'est beaucoup trop. Pourquoi aussi? Parce qu'il peut y avoir des comportements moutonniers des fonds.
Oui.
Par exemple, c'est très difficile pour un fonds de dire aux investisseurs, on n'est pas dans Nvidia pour x, y raison, alors qu'en fait, Nvidia derrière a explosé. Quoi.
Oui.
Donc, aujourd'hui, en fait, en réalité, il y a des points de contrôle qui permettent d'aller dénicher ces 10% de fonds qui surperforment le marché. Je pourrais pas tout voir aujourd'hui, mais je vais vous donner quelques points de contrôle.
Ouais. Alors, ce qu'on appelle les points de contrôle, c'est quoi? C'est des critères?
C'est des critères, on va dire, à valider.
Ouais.
Par exemple, le premier, bon, ça, c'est simple, ça va être la performance historique du fonds.
Ouais.
Plus il y a d'historique et plus la performance est stable, mieux c'est. Et ensuite, l'équipe de gestion qui va être assez stable dans le temps.
Alors, sur l'historique, il faut un historique de combien, à peu près?
Voilà. Moi, je dirais plus de 10 ans, c'est bien.
Plus de 10 ans.
S'il existe depuis 5 ans ou 3 ans, à ce moment-là, est-ce que l'équipe de gestion avait d'autres fonds? Et à ce moment-là, il faudrait peut-être regarder ces fonds-là pour voir ce qui se passe, notamment avec Indépendance AM, typiquement avec le nouveau fonds Europe qui existe depuis 5 ans.
C'est pour l'historique et pour l'équipe de gestion. Alors ça aussi, c'est très subjectif. Comment est-ce qu'on...
Ouais, alors l'équipe de gestion, on peut voir s'il y a des gérants qui existent, enfin qui sont en place depuis très longtemps. Il y a des gérants qui sont en place depuis 20 ans, 30 ans. Donc est-ce qu'il y a un gros turnover?
Ouais.
Et en fait, en général, ça va donner une indication.
Turnover, ça dit quoi? Grand turnover.
Un grand turnover, c'est si un fonds va changer de gérant tous les 3 ans, quoi, quelque chose comme ça.
Ouais. D'accord.
Si un gérant est là depuis 10 ans ou depuis 20 ans, en général, c'est qu'il performe.
Ouais.
Donc, il va pouvoir continuer. Et en plus de ça, ça nous donne une indication sur sur sa rigueur et sa constance en termes de stratégie.
D'accord. Ok. Je referme la parenthèse. C'était pour préciser ça.
Donc, il y a ça. Ensuite, il y a l'actif share. Donc, l'actif share, ça, j'aime beaucoup. L'actif hier, grosso modo, c'est entre 0 et 100%. Plus il est faible, plus le fonds, en fait, en réalité, n'a pas trop de conviction et va copier son indice de référence.
Ouais.
À ce moment-là, en fait, on paye des frais pour rien et vaut mieux aller sur l'ETF.
Oui.
Au-dessus de 60%, c'est une bonne chose. Ensuite, on va avoir le tracking error. Donc ça, ça va être plutôt la différence par rapport à la performance du fonds. En général, c'est entre 0 et 10%. Et en général, donc l'actif share et le tracking error vont venir de pair.
Ouais.
Donc, je vous donne quelques exemples. Ouais. Donc, si on a un actif share élevé avec un tracking error élevé, ça signifie qu'en général, ça va être plutôt un fonds à grosse conviction, stock picker, voire même des fonds de niche, typiquement de l'emerging market sur l'automobile, quelque chose comme ça. Si l'active share est faible avec un tracking error élevé, à ce moment-là, en fait, ça va être les mêmes actions de l'indice. En revanche, il va y avoir une surpondération sur un certain secteur, par exemple 40% sur la tech. Et ensuite, dernier point, si on a une active share qui va être faible avec un tracking error faible, à ce moment-là, en fait, on appelle ça le closet indexer. Donc, en fait, en réalité, il réplique exactement le fond. Et donc, du coup, l'indice de référence, on paye de l'argent pour rien, vaut mieux aller sur l'ETF.
Voilà. Donc, il y a des alternatives. Voilà. Il faut aller les chercher, mais ça, c'est un boulot quand même.
C'est un boulot, ça prend du temps. Et en plus, là, je vous ai donné que quelques indices. Il y en a d'autres. Il y a comme le risque, la volatilité, le max drawdown, donc la perte maximum d'un fonds.
Ouais.
Et après, il y a différents ratios.
Concrètement, comment on fait ce travail, Jérôme? Parce que on a énuméré les critères. Comment est-ce qu'on va se renseigner?
En fait, premièrement, on a beaucoup de sources de données comme Cantalis et Morningstar, donc sur lesquelles on a beaucoup d'informations. Déjà, sur la version gratuite, on peut avoir pas mal d'infos.
On peut avoir d'infos déjà,
ActiveShare, c'est plus difficile à avoir. ActiveShare, donc soit on va regarder les fact-sheets, enfin les relevés des différents gérants chaque mois, soit ils ne sont pas indiqués. À ce moment-là, il faut aller contacter directement les gérants.
Ouais.
Donc voilà comment faire pour avoir ces informations. Et si on a une minute, je peux en donner quelques-uns.
Allez-y.
Le Sharp Ratio, ça j'aime beaucoup. En fait, ça permet de mesurer combien est-ce qu'on va gagner par rapport à chaque unité de risque supplémentaire. Plus on s'approche de 1, mieux c'est. Si c'est en dessous de 0, il faut fuir.
Ouais.
Après, deux derniers que je ne vais pas expliquer là parce qu'on n'aura pas le temps, mais Sortino et Information. Si c'est en dessous de 0, faut fuir. Et si c'est aux alentours de... Alors, l'information, si c'est à plus de 0,5, c'est très bien. Ouais. Sortino, si c'est à plus de 1, c'est très bien.
Bon, voilà. Tout un travail de recherche sur des sites. Vous avez parlé de plateformes qu'on pouvait éventuellement, auxquelles on pouvait se référer pour faire monter en puissance cette présence des ETF qui déjà commence à... un certain public en France. Assez jeune, apparemment. Ça, c'est du côté des plus jeunes que ça se diversifie.
Et il y avait quand même une dernière chose quand même importante. C'est je veux pas être alarmiste en fait en réalité en disant que qu'on a tapé 40 fois le cap chiller. En réalité, qu'est-ce que ça dit? Ça dit surtout que sur les 10 prochaines années, statistiquement, à 78% de chance, on va avoir un rendement qui va être annualisé aux alentours de 2,3% par an.
2,3% en moyenne sur les 10 prochaines années.
Ouais, comparé à 10% historiquement.
Alors faisons ce travail de fond, voilà. Merci beaucoup Jérôme, c'était très clair. Jérôme Viala, merci d'être venu, fondateur associé chez Patrimovie. Merci Jérôme.
Merci Guillaume.
Avec plaisir sur BFM Business, 11h39.